assez régulièrement pour être vraiment clair avec nos partenaires.
Ouais, et venir avec un bon système de communication.
Tout à fait.
C'est ça. Puis après, il y a des choses qui nous facilitent la tâche aussi, quand même, de travailler avec des partenaires. Par moment aussi, ça permet de pouvoir souffler.
Carrément.
Donc, ouais. Voilà, c'est juste le petit plus.
On peut peut-être faire un petit point actu par rapport à vos artistes,
clairement,
pour que nos auditeurs et auditrices puissent aller écouter vos artistes. Donc, on l'a dit avant, Louis Charbonnel vient de sortir un single.
Oui.
J'ai vu qu'il y avait d'autres choses en préparation de son côté.
Ouais, carrément. Bah là, on est sur la... on commence à rentrer dans le vif du sujet où c'est la campagne de com pour son futur album qui sort fin septembre. Donc il va y avoir plein
de
singles.
Moi j'ai de noter qu'il sortait le 4 septembre et que la release party se faisait le 30.
Alors le 30, ouais, le sorti 4, bon, on est dans l'indépendance, on s'en fout, on choisit au dernier moment, mais dans l'idée, oui, ce sera sûrement le 4. On est toujours en discussion avec les différents collaborateurs étant donné qu'il y en a de plus en plus, mais oui, voilà, on va dire ça, septembre.
Okay,
il y aura plein de singles, il y a plein de, il y a un clip, il y a des réels, il y a des machins, c'est classe, c'est beau, c'est.
Et d'ici là, il y a un nouveau single qui sort début juin aussi.
C'est ça, il y en a un début juin et un fin août avec clip.
Avec clip, tout à fait. Lidl sort un EP bientôt, le 7 avril.
C'est ça. Alors je crois qu'eux, ils veulent dire album. Si on dit EP, ils vont...
Ouais, je sais pas.
Pardon.
On sait pas, mais en tout cas, c'est un 7
titres. Ils sortent un banger le 7 avril avec No Funeral Records, c'est ça, hein?
Ouais. 10. Ils jouent, la release est le 7 et projet sort le 10.
Tout à fait.
Un banger absolu, monstrueux, vraiment monstrueux.
On a hâte. Et Flying Blanket Mystery ont sorti leur premier album en début de mois.
Alors, EP.
Ouais, deuxième EP.
Décidément, j'ai aucun nom de bon.
Toujours compliqué, la nomination. Ouais, tout à fait, qui est sorti début mars, là, avec Release Party au 106, incroyable. Ils nous ont fait un show comme on avait rarement vu, avec plein de petits happenings et tout, non, vraiment, flying, c'est du tout droit, là, il y a vraiment beaucoup de dates cet été. Ils ont signé avec Poser Export, du coup, en booking, qui font du très bon travail, qui trouvent vraiment beaucoup de dates, c'est vraiment chouette. Pour le coup, là, Flying, c'est une belle année en perspective.
Et vous avez aussi Just Alone qui a une tournée de quelques dates en ce moment.
Tout à fait, ouais.
C'est ça, ouais.
Ça joue.
Ça fait beaucoup de choses.
Oui. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit deux. Et Angèle, pareil, bah, là, l'objectif, c'est un peu comme For On The Flex, ça repart sur de la composition. On réfléchit à peut-être un double single et un EP derrière, mais on est encore en réflexion autour de tout ça.
Merci beaucoup.
On a les Aga aussi. Les Aga Menonze avec qui on vient de signer.
Tout à fait.
C'est tout frais. Et eux sortent un album.
Un autre banger.
Un album fin août. Ouais. On l'a eu en exclu parce qu'on est arrivé. Ah. L'album était déjà enregistré et tout. Mais waouh.
C'est trop bien.
Ok. Donc un album de Aga Menonze en août.
Fin août, ouais, tout à fait.
Fin août. Merci beaucoup. Je ne peux que conseiller d'aller écouter tout ça et d'aller voir en concert les artistes dont on vient de parler. Et pour montrer l'exemple et peut-être vous donner envie, on va s'écouter maintenant un morceau tiré du premier EP donc des Flying Blanket Mystery, Party Killer.
Allez le rock.
everybody seems to be keeping me in. I'm on a series of topics to talk about. My head hurts and ran out of me like 5 minutes ago. And there's only cheap wine left, so please help me! Please help me!
C'était Party Killer des Flying Blanket Mystery.
Allez, le rock.
On a parlé de...
Désolé.
Ça commence. On a parlé de vos manières d'aborder le travail de management, de vous et de ce que vous faites. J'aimerais maintenant qu'avec vous trois, on aborde peut-être la question de manière un peu plus large. Selon vous, c'est quoi la compétence, la chose absolument nécessaire pour un manager? Qu'est-ce qu'il doit...
Savoir être les parents de tes artistes.
Ouais, dire le
avoir
social.
Avoir le permis de conduire.
Aussi.
Et un véhicule.
Ça peut aider. Non mais oui, comme tu dis, le social, hein, vraiment être capable de gérer des êtres humains, d'autant plus des artistes, donc on connaît que ça peut vite être le bordel.
Et puis pas qu'un, c'est
et
plusieurs
qu'un,
à la fois.
C'est ça.
Et donc après, comment ça se crée selon vous une relation manager-artiste? Par exemple, dans vos cas, aussi le début, est-ce que c'est les artistes qui viennent vous voir avec des demandes? Est-ce que c'est les managers qui diguent et qui vont à la recherche d'artistes? Dans vos cas, j'ai l'impression que c'est surtout parti de connaissances avant de travailler ensemble.
Je pense que tu peux vraiment faire le parallèle avec le couple. Hein.
C'est vraiment ça.
Tu sais pas d'où ça arrive. Tu sais, des fois, c'est parce que c'était un pote. C'est une rencontre, tu sais pas pourquoi, tel jour, à tel concert. Et en fait, t'as trop aimé le truc et vas-y, on discute.
Moi, ça a été ça pour Royal Casino. Genre, je connaissais absolument pas le projet. Je connaissais... À l'époque, j'habitais à Paris. Et juste, j'ai vu un concert et juste, je suis restée un peu fixée en mode waouh, c'était super. Alors que pourtant, pour Far on the Flex, je connaissais la musique et c'est moi qui suis allée les voir pour leur dire je veux travailler avec vous, venez. Et après, on a déterminé plein de choses. Mais, ça dépend vraiment de ta relation. Bah comme on est dans des scènes locales, en fait, à partir du moment où tu travailles avec une personne, tu vas vite connaître tout le monde un truc en amène un autre et c'est assez rapide après.
Et après, du coup, la relation artiste-management se fait un peu effectivement comme un couple ou une amitié. La confiance se crée au fur et à mesure, la relation se solidifie au fur et à mesure des bonnes expériences. Mmh. Et à contrario, bah, s'il y en a des mauvaises, effectivement, ça peut se déliter. Ou... Mmh.
Ça peut s'arrêter. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des expériences de début de collaboration, de management, et qu'au final, vous vous rendez compte que ça ne matche pas et que ça s'arrête?
Moi, ça m'est arrivé, oui. Il y a eu un différent humain, mais en fait, au-delà de ça, le groupe a split. C'était plus un problème... comment dire, c'était pas précisément entre manager-artiste, c'était genre un climat général. Mais rien de dramatique, quoi.
Non, sans forcément aller dans le drame, juste...
Arrive hein, entre les différents humains. En général, si t'es par exemple, je vois, c'est pas comme pour Reds, c'est la même chose que pour moi, parce qu'à part Just Alone et Louise, il y a quand même pas mal de groupes de 4. Donc déjà, il y a une dynamique humaine de 4 personnes à gérer, ou des fois, entre eux, c'est compliqué. Et après, il y a la relation entre eux et nous, et entre nous et les autres gens, bien sûr. Faire en sorte, parce que c'est quand même un boulot de médiateur constamment, c'est à nous de tanker la tension, ou genre ce qui peut être compliqué entre nous et les interlocuteurs, pour faire en sorte d'arriver à donner aux artistes une version qui va pas les mettre mal, en fait, globalement.
Carrément.
et de médiation entre les artistes aussi.
Ça peut arriver. Quand c'est nécessaire, quand ils n'arrivent pas entre eux à se mettre d'accord, savoir trancher aussi pour le bien général de tout le monde et du projet et de eux en fait. Surtout parce que c'est, enfin moi je vois pour ma part, c'est, et je pense que c'est la même chose pour les gars aussi, c'est quand même un... La base du truc, c'est de la bienveillance. On est quand même là pour les chouchouter et faire en sorte qu'ils aillent bien, parce que c'est ça aussi qui va faire que tout se passera bien. Parce que l'espèce d'industrie de la musique, après, nous, on bosse sur des trucs un peu plus niche aussi à côté, mais elle est quand même peut-être assez violente. Les rencontres, elles peuvent être assez violentes. Tout ce qui va être les interlocuteurs pros, ça peut être très intense. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un cocon qui est assez solide et assez bienveillant pour que, malgré les épreuves qui peuvent être rencontrées, ils aient quand même envie de continuer. Ils se sentent quand même bien à être là dans leur projet et dans le basket.
Carrément.
Merci.
Je valide.
Alors, on va pas en parler très longtemps parce que le mot fait peur et c'est pas le plus passionnant, mais je pense que c'est intéressant de l'aborder quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes administratives quand on parle du métier de manager. Pas de statut approprié, ça rentre dans aucune case. Vous, comment vous gérez ces contraintes-là ?
Surf.
À la Wall Again.
Ouais, au début, c'est vraiment ça. Là, maintenant, je pense que le truc le plus approprié et le plus cohérent pour rentrer dans le légal, c'est on est chargé de production, en fait, parce qu'on s'occupe de la PrEP, qui est l'équivalent de chargé de production dans d'autres structures. Et c'est créer une association. Et en fait, si nous, on veut exercer ce métier-là hors entreprise, c'est vraiment en créant un vrai bureau avec des gens intéressants. Et intéressé en fait surtout par rapport à tout ça, et nous d'être chargé de prod et de se mettre au travail d'une au service d'une structure, mais c'est vraiment le chargé de prod qui...
Ouais, et puis je crois vraiment le métier de manager administrativement, tu l'as dit, n'existe pas.
Oui, que ce soit en auto-entreprise ou...
C'est ça, c'est là, tu...
C'est de l'accompagnement d'artiste.
C'est ça, et comme tu dis, plutôt chargé de prod, mais nous, au début, où on a monté Retz, on a posé des questions à des gens plus vieux qui exerçaient le métier, etc. Et on s'est vite rendu compte qu'il y en a très peu qui font déjà que ça. Très souvent, tu commences manager et puis en fait, tu finis par faire de la production ou...
Selon ton appétence.
Voilà, c'est ça. Et il y a à chaque fois des différences. On peut trouver des managers éditeurs, des managers producteurs, des managers qui ne sont plus du tout managers. Enfin, vraiment, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une finalité en soi, le management.
C'est rare. Hein.
Ouais, c'est plus, comme tu disais tout à l'heure, une porte d'entrée, un premier pas dans l'industrie, et puis en fait tu te rends compte que de toute manière c'est pas viable, tout simplement.
Si,
à moins de manager Zao de Sagazan, tu te feras pas assez d'oseille pour vivre, donc il y a un moment où il faut réfléchir à d'autres choses.
C'est un truc qui marche vraiment au coup de cœur. On voit même sur la plupart des managers, ils sont, comme tu dis, ils ont un boulot à côté, ils vont quand ils continuent à manager des groupes, c'est parce qu'ils sont en mode eux je les aime bien, j'ai envie pousser, mais c'est pas...
Et que ça peut souvent se lier à leur deuxième profession.
Carrément.
Nous, là, on commence à faire de la production, évidemment qu'on produit les artistes qu'on manage, tu vois,
premier.
Parce que c'est ceux auxquels t'as le plus confiance et t'as en plus un visu sur le tout, quoi.
Développement, ouais.
On a déjà un peu parlé de la question du réseau aussi. Ça a été abordé à chaque fois, constituer un réseau, ça a l'air d'être quand même un aspect assez primordial du travail de manager. Et vous, comment vous êtes parvenu ou comment vous travaillez encore à vous constituer un réseau ? C'est quoi les challenges et les difficultés ou justement les choses qui facilitent est-ce qu'avant d'envisager être manager, vous aviez déjà des connaissances et un réseau un peu constitué qui vous a permis de démarrer, ou est-ce que vraiment vous êtes parti de zéro ?
Nous, comme on disait, on avait le réseau local, quoi, parce qu'on est tous les deux musiciens, on a traîné dans plein de concerts, etc. Donc forcément, on connaît un peu les acteurs locaux, on est très proche du 106, qui eux nous ont...
La maison. C'est la maison.
Moi, j'ai mon petit duvet caché sous le bureau pour dormir là-bas tellement
j'ai
suis.
J'ai découvert tous les coins de la map.
C'est ça. Il n'y a plus d'easter egg, là, on a tout trouvé. Mais voilà, donc le 106 nous a donné des énormes bases, un début de réseau, en plus de notre réseau du coup plus indépendant, plus niche, etc. Et après, selon moi, c'est continuer à se montrer, rentrer dans tous les événements un peu gros comme les Inouïs et un maximum de festivals, de concerts, etc. Mais aussi, on a la chance d'avoir la Norma, qui est quand même un
énorme truc hyper important.
Ouais, une énorme toile d'araignée qui relie tous les professionnels de la musique de Normandie. Donc déjà, ça pareil, ça commence à redévelopper le réseau de manière moins locale, donc régionale. Et puis derrière, nous, on utilise aussi les réseaux de nos artistes qui sont déjà en lien. Par exemple, je pense à Lidl, qui sont en lien avec beaucoup de labels, de micro-labels en France, même à l'international. Les AGA qui sont signés avec un label américain. Donc forcément, en fait, nous, on rentre dans les boucles de tout le monde. Donc on a des réseaux qui se développent un peu sur tous les plans. Bon, après, un label de surf music, ça nous servira que pour les AGA. Mais au moins, on sait comment ça marche.
Ouais, mais bon, après, tu vois, tu peux avoir un premier contact avec, je sais pas, le CNM pour l'export de ta musique.
Carrément.
Qui après peut te servir pour d'autres choses. Enfin,
le réseau se fait un peu au fur et à mesure des occasions et des développements des groupes aussi.
On va en reparler, il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble, mais on va se faire une petite pause musicale en s'écoutant le titre IDK de Just Alone et on revient juste après. C'était IDK de Just Alone, titre tiré de son dernier album Finally Driving Alone, sorti l'année dernière. Au-delà du management, vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous êtes aussi musicien. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est répandu que les managers soient musiciens aussi, ou que les musiciens soient quelque part, sans forcément le savoir, manager aussi, en tout cas, voilà, de ce que vous disiez tout à l'heure, ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun, que les musiciens ont beaucoup de choses à gérer et en fait, sans forcément s'en rendre compte, font du travail de management.
Clairement.
C'est voilà. La gestion de projet artistique. Hein,
ouais, donc, c'est ça.
Si quand tu fais ton projet tout seul et que tu connais personne, bah, tu gères ton projet artistique et techniquement c'est du management. Donc,
Mais je sais pas s'il y a beaucoup de musiciens, musiciennes qui deviennent managereuses.
Je crois pas.
Il doit y avoir effectivement une grosse part, mais il y a quand même l'air d'y avoir beaucoup de gens qui font ce métier-là sans être forcément musicien ou musicienne. Enfin, là, je pense, tu vois, les autres manageuses avec qui on a pu se rencontrer et tout, elles sont pas du tout musiciennes. Donc, non, je pense qu'il faut être forcément touché par le milieu de l'art et notamment de la musique, mais.
Il n'y a pas besoin d'en faire pour. En général, les artistes, comme ils doivent apprendre à gérer leurs projets, c'est pas la raison pour laquelle ils ont commencé à faire de la musique. Ça va peut-être plus les dégoûter et du coup, ils ne vont pas du tout avoir envie de faire ça pour d'autres.
Mais vous, ça n'a pas été le cas.
Ouais, moi, je ne faisais pas de musique quand j'ai commencé à faire du management. J'ai appris à faire de la musique après. Du coup, c'est quand même un peu à l'envers. C'est à force de passer tout mon temps avec des gens qui faisaient de la musique et je voulais en faire, j'ai commencé à faire de la batterie et puis maintenant, voilà, ça joue. Et puis c'est comme ça, mais j'ai fait le parcours à l'envers. J'ai commencé par faire de la technique et du management pour ensuite aller faire de la musique. Donc j'ajuste mes heures d'intermittence avec de la musique et pas l'inverse. Et du coup, c'est spécial.
Je pense que c'est vraiment un métier où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes.
On est un peu les cancres de. On n'a pas eu. Comme c'est pas des trucs avec des formations, tu sais, t'as des gens, ils font un super boulot dans la prod. Et nous, on a décidé de mettre le pied dans la porte et d'apprendre tout seul dans notre coin.
On a pris le truc qui n'existait pas, qui payait pas, qui prenait la moitié de notre temps. Et donc, il fallait être dispo H24, quoi. Mais on aime ça. C'est cool.
Ça, on aurait pu passer notre BAFA, mais on a décidé de gérer des adultes.
C'est clairement ça. Clairement ça.
Oui, ça donne envie en tout cas.
C'est
un chouette métier. Hein. Vas-y, tu fais des tournées, c'est cool.
Et encore, t'es pas manager normalement, hein. Tu fais pas les tournées. Hein.
Tu découvres énormément de choses en termes de rencontres. C'est quand même, comme t'es à la proximité des artistes, tu trouves c'est quand même un bon moyen de se créer du réseau puisque t'es exposé dans tous les sens. Moi, je vois pour cette histoire de réseau, j'ai un peu fait une espèce de triangle du feu. C'est-à-dire que je fais de la musique, je fais de la technique et du management. Normalement, j'arrive à coincer tout le monde au bout d'un moment, que ce soit parce que. Dans tel festival, je vais aller faire de la régie et du coup, machin. Dans tous les cas, ou rentrer dans des dispositifs de, en tant que musicienne et tout, et à la finalité, tout se regroupe et c'est quand même un bon moyen d'être sûr de réussir à.
Ouais, de rencontrer tout le monde, de n'épargner personne.
Ouais, c'est ça.
De toute façon, on voit aussi même des artistes qui n'ont pas forcément de managereuse et tout, qui vont faire de la régie aussi, qui vont essayer de développer leur réseau comme ça, en faisant d'autres métiers. Et je pense que beaucoup d'intermittents du spectacle font beaucoup de métiers différents.
T'as pas le choix.
C'est ça.
C'est la base du truc. À moins d'être un privilégié, d'avoir réussi à trouver
à l'opéra et d'avoir
ta place.
D'être
intermittent, en fait.
Il y en a aussi.
Moins CDI au bout d'un moment.
C'est pas des vrais.
Mais vous, le fait d'être manager, vous direz que ça modifie quoi par rapport à votre approche de votre propre pratique musicale?
Moi, je crois que je l'ai un peu lâché. Totalement lâché.
Clairement.
Mais on est là.
Moi, je suis un chef de projet. Je suis vraiment. On va aller là, on va faire ça comme ça pour telle raison. Et on fait de la musique? Oui, mais comme pour aller là. Et
c'est d'accord.
C'est cool. Moi, ça a eu l'effet vraiment inverse où. Tout ce qui touche au management, je ne le fais pas dans mon projet. Genre vraiment, c'est un truc qui m'hérisse les poils parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire pour quelqu'un d'autre, d'avoir la vision extérieure et d'être cette personne qui a la vision extérieure. Alors que devoir manager ton groupe de l'intérieur, je trouve ça hyper... hyper casse-gueule et puis t'as pas ce truc de
ping-pong un peu
c'est ça de
d'un regard extérieur
ça,
aussi
ouais.
Quoi.
D'être un peu objectif aussi sur ton projet
et de reconnaissance aussi parce que c'est cool de bosser pour un autre groupe parce qu'ils sont contents après de ce que t'as fait et tout. Là, si tu le fais pour toi-même, t'es content de toi-même, ok, super.
Autosatisfaction.
Il y a un peu ce truc où des fois sur en manageant des groupes j'étais en mode mais faites ce truc là vous allez voir ça va vous aider et ils le faisaient pas et en fait du coup mais pourquoi vous faites pas et là je le fais du coup et c'est super agréable parce que je suis en mode ah c'est quand même vachement plus facile. Et
Oui, au moins tu peux driver vraiment.
Oui, c'est ça,
dans
mais c'est
vision,
plus ce
quoi.
Côté-là qui est satisfaisant. Mais
je comprends.
Et comme on est plein, ça va.
Mais donc, du coup, de votre côté, c'est plus. Est-ce que, du coup, Solal, pour votre projet, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du management pour l'instant?
Ah non, vraiment, bah, du coup, c'est un projet qui n'est pas du tout. pas du tout voué à faire de l'argent, à être connu, etc. C'est un truc où je suis avec mon meilleur pote, on se fait kiffer, on fait la musique qu'on aime. Après, évidemment, que le management me donne un réseau.
On peut dire le nom du projet, accessoirement.
Tout Circle c'est... Figures, allez écouter ça sur toutes les plateformes, c'est incroyable. Non, et on va sortir là, du coup, des trucs beaucoup plus de manière chill, pas à se prendre la tête avec des rétro-planning, etc. Juste, on fait de la musique, on se fait kiffer entre potes. Si ça fait plaisir à d'autres gens de nous écouter, tant mieux. Sinon, tant pis, on s'en fout, nous, on s'amuse. Et en fait, c'est ça aussi que moi, j'ai pas envie de perdre. C'est de pas oublier qu'au départ, j'ai fait de la musique juste pour me faire kiffer et que c'est un truc qui me prend au plus profond de mon âme. Et j'ai pas envie de perdre ce truc-là parce que là, je mets les pieds dans l'industrie et je vois que c'est pas du tout comme ce que j'imaginais quand j'avais 14 ans. Et du coup, TCF, du coup, reste mon échappatoire artistique.
Non, mais c'était l'inverse. Comme j'ai commencé par le management et que c'est ce que j'aime, bah, du coup, ma manière de faire de la musique, elle est inhérente à ces savoirs-là. Et du coup, je ne vais pas dire que j'ai jamais fait de la musique pour le plaisir à proprement parler, parce que ce serait faux. Mais genre, comme je prends énormément de plaisir à gérer des groupes, gérer de la paperasse, avoir une charge mentale, c'est un truc qui est assez stimulant, j'aime bien. Bah, du coup, j'y pense en même temps que je le fais. Et du coup, c'est un peu même un moteur pour moi. Au contraire, ça ne me bride pas du tout.
C'est intéressant.
Et Rafi, par rapport à votre projet musical, j'ai cru comprendre que c'était un peu en stand-by.
Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah ouais, écoute, moi, ça fait un moment où je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon. J'ai fait mes petits morceaux, moi, ils sont dans mon disque dur, et on les a envoyés au mixage. Normalement, l'EP devrait sortir, mais c'est une question répétitive chaque année, c'est la même.
Ça fait combien de temps que t'es sur ton...
Ça fait,
ton
ouais, EP? Ça, du temps. Du temps, beaucoup de temps. Je vais m'appeler 7 ans en fait.
L'EP le plus long à produire.
Il a mis 7 ans.
En vrai, on n'en est pas loin. Hein.
Non, mais du coup, tu vois, moi j'ai préféré lâcher ce truc-là pour me concentrer vraiment sur le reste. Moi j'ai un job alimentaire là à côté, même si pendant le début de Reds, j'avais beaucoup de temps libre. Là, ça l'est encore moins. Enfin, je préfère me concentrer en fait et être en appui sur les autres projets où je trouve ça plus cohérent de mettre mon temps là-dedans en tout cas. Et puis après, rien ne m'empêche de me faire plaisir aussi de temps en temps, à droite à gauche, faire des petits soins avec des petits potes. Voilà.
Notre émission va toucher à sa fin. Merci beaucoup, Solal, Rafi et CEO, d'être venus nous parler de Reds Management et de Shiny Pickles Record. On rappelle un petit peu les actualités. Alors, pour For On The Flex, il y a des choses à venir, mais on ne peut pas trop
dans
en parler.
C'est ça, c'est encore flou, c'est encore à structurer. Bah, en fait, c'est avec, comme il y a eu plusieurs EP qui sont sortis, tout ça, c'est la restructuration de vers où est-ce qu'on va.
Oui. Et avec Kindergarten,
ça joue, ça s'arrête pas, ça sort des trucs.
Pour Halloween, on attend quelque chose pour Halloween.
Ça. Mais ça, pour l'instant, on a quelques dates qu'on peut annoncer. On sait qu'on joue au Fiestata, donc Festival de Tata Frippé, le 29 août. Donc on se fait un 3 pièces à nouveau parce que il y a eu des changements de line-up et prochain 3 pièces ce sera le nouveau line-up tout frais, tout beau, donc voilà.
On a hâte. Du côté de Reds, évidemment Louis Charbonnel qui a sorti un single ce 27 mars, Spaces.
Tout à fait.
L'Idylle qui